le fleuve Saint-Laurent peut présenter en certains endroits un drôle de bouillon de culture. Hein. C'est vrai, quand on regarde les eaux du fleuve, des fois, on se dit... On n'est pas sûr. Mais pourtant, il y a des gens qui s'y intéressent de façon très importante et qui vont faire des plongées sous-marines prolongées dans le fleuve Saint-Laurent. C'est le cas, entre autres, de notre prochaine invitée qui s'appelle Nathalie Lasselin, qui est cinéaste, plongeuse et conférencière. Bonjour, Mme Lasselin.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Excellent.
Bon, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fleuve Saint-Laurent, vous? Vous avez l'intention, au cours des prochaines semaines, de faire une plongée prolongée de 70 km dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, mais de façon continue, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, j'ai la chance d'avoir dédié ma vie à faire de l'exploration un petit peu partout dans le monde.
Ouais.
Et à chaque fois que je rentre chez moi, je me dis, ben, c'est bien beau d'aller en Arctique, en Chine et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe avec le fleuve qui est au pied de chez nous, dont on dépend d'une façon si importante, vu que toute notre eau potable vient du fleuve. Alors, j'ai eu envie de l'explorer,
ouais.
Et puis de l'explorer d'une façon un peu sportive, en faisant une plongée de 70 km qui va avoir lieu dans un petit peu plus d'un mois. Mais entre-temps, je me posais comme citoyenne toutes sortes de questions, à savoir, mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce fleuve, au-delà de la biodiversité, des poissons, des plantes aquatiques que je connaissais déjà. Et c'est un peu ce qui m'a amené à m'associer en fait avec des scientifiques de l'Université de Montréal,
ouais,
pour essayer de voir un petit peu est-ce qu'il y a des contaminants émergents dans le fleuve, comme on en trouve un petit peu dans tous les coins d'eau, les cours d'eau dans le monde, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était au pied de chez nous.
Qu'est-ce que c'est des contaminants émergents?
Alors en fait, ça comporte aussi bien les pesticides, les herbicides, les hormones, tous les résidus de médicaments, alors ibuprofène, contraceptifs, antidépresseurs, etc., que l'on consomme et que l'on va rejeter via nos urines.
C'est-à-dire que quand on prend des médicaments, par exemple, évidemment, on ingère une molécule du médicament, et puis quand on va à la toilette, on évacue ça dans nos urines, ça s'en va dans les usines de filtration, mais on ne peut pas filtrer suffisamment pour éviter que ça se retrouve dans l'eau du fleuve?
Ben exact, parce qu'en fait, comme vous le savez, l'usine de traitement d'eau usée qu'on a à Montréal, l'usine Jean Marcotte, qui existe depuis 1984, fait un travail phénoménal. Je pense que dans son type d'usine, c'est la troisième plus grosse au monde. Par contre, on ne peut pas tout traiter. Déjà, ils ont un travail énorme qu'ils font en mettant des grillages, en filtrant de façon mécanique tous les détritus que l'on jette à tort et à travers dans les éviers, dans les toilettes, dans les égouts. Par contre, ce qui est des contaminants émergents, malheureusement, une bonne proportion d'entre eux ne sont pas traités à l'heure actuelle.
OK, et mais vous, ça, vous dites aussi qu'en plus des médicaments dont vous faisiez la liste tout à l'heure, il y a aussi, vous avez été étonné de découvrir à quel point il y a une concentration importante de caféine.
Oui, exact. En fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas la découverte de la semaine. Des scientifiques étudient déjà la question depuis quelque temps. Mais parfois, on oublie des choses un petit peu de base. Et effectivement, je m'étais pas trop posé la question, à savoir le café. Est-ce qu'on en retrouverait des traces dans le fleuve? Et effectivement, on en trouve des traces. Mais je vous rassure, que ce soit à Montréal ou ailleurs dans d'autres cours d'eau,
ouais,
c'est un petit peu le même constat qu'on va avoir.
Ça explique peut-être pourquoi les poissons ont toujours les yeux ouverts. Hein?
Je sais pas, j'irai pas jusque-là, là, mais mettons que si on veut être fantaisiste, on pourrait effectivement dire ça. Mais bon, il y a bien d'autres raisons, je crois. Je crois qu'ils doivent être vachement vigilants, parce que d'un coup, qu'il y ait des gros prédateurs, genre les humains, ce serait peut-être une meilleure raison.
Oui, exactement. Vous qui avez exploré beaucoup le fleuve Saint-Laurent, surtout autour de Montréal, qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant pour vous, de plus intéressant dans le fleuve à explorer?
Ce qui est fascinant, je vous dirais, c'est à quel point il est difficile de l'explorer. Je connais le fleuve pour l'avoir plongé énormément en Ontario sur des épaves où j'ai fait quelques documentaires.
Ouais.
Pareil pour tout ce qui est à l'est de Québec. Mais de le plonger à Montréal, je ne sais pas si ça vous arrive de traverser le pont et de regarder en bas à quel point il y a du courant, de l'eau vive, des remous, etc. d'aller faire une immersion. Cette semaine, je suis allée faire une plongée test sous le pont Mercier. Et j'aime autant vous dire que la ronde à côté, c'est du petit manège par rapport à ce que j'ai eu à vivre en passant sous le pont Mercier.
Ah oui, hein?
Je me suis fait brasser de droite à gauche. À un moment donné, je me suis fait prendre dans un tourbillon. Donc, il m'a fallu plusieurs longues secondes pour pouvoir sortir. C'est un fond qui est impétueux. Les premiers explorateurs français se sont arrêtés au rapide de la Chine et je comprends pourquoi. Mais en même temps, tout ce qu'on ne connaît pas, pour moi, est vraiment un bon sujet d'études et d'exploration. Alors, j'avais vraiment envie d'aller voir justement quel genre de topographie on pouvait retrouver.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de moules zébrées, des choses comme ça qu'on peut voir dans le fleuve?
Mais vous parliez tout à l'heure du fleuve. Entre autres, quand on passe, moi, je prends le pont Victoria tous les matins. Et c'est vrai qu'il y a du courant, mais l'eau semble relativement propre. J'ai l'impression que l'eau est comme un peu verte, là, mais je veux dire, ça semble propre. Est-ce que je me trompe ou la qualité de l'eau, quand même, relativement bonne?
C'est sûr qu'on peut énormément se rassurer et être très content par rapport à ce que c'était dans les années 70. C'est pas du tout le même genre de polluants. Et une fois de plus, le travail de l'usine de traitement des eaux usées améliore grandement la situation à Montréal. Quand bien même parfois on a une eau qui est brunâtre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est plus polluée qu'une eau verdâtre. Ça dépend du type de fond, du type de sédiment, du type de plante aussi qui va pouvoir être là et pouvoir filtrer, faire ce travail-là. Dans le fleuve à Montréal, dans la plupart des endroits, la visibilité n'est quand même pas excellente. On n'est pas dans les mers du Sud. On peut avoir 2, 3, 4 pieds. À certains endroits, on en a un petit peu plus. Mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Par contre, on a quand même un fleuve qui est dans une santé qui semble très acceptable. Par contre, il nous reste toujours du travail à faire, aussi bien comme communauté que comme individu, pour avoir une meilleure relation justement avec cette source d'eau potable. Parce que tous les Montréalais, 80% de notre eau potable du robinet vient du fleuve Saint-Laurent et toutes nos eaux usées, après traitement, la plupart du temps, retournent dans le fleuve.
Ouais.
Alors on a, tant qu'à moi, peut-être un travail, en tout cas certainement une responsabilité et un pouvoir de pouvoir améliorer la qualité de l'eau, justement, en ayant des comportements un petit peu plus sympathiques envers le fleuve, genre quand on ne rejette pas des médicaments dans les toilettes ou des produits qui devraient être dans des centres de tri plutôt que d'être jetés dans les toilettes et les égouts.
Vous avez parlé d'épaves tout à l'heure. Vous avez plongé dans le secteur de l'Ontario, de ce que j'ai compris. Il y a aussi des épaves près de la ville de Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'il y en a autour de Montréal?
Alors, il y a quelques épaves. Une des épaves qui a fait l'objet d'études au début des années 90 était un des premiers bateaux de la famille Molson qui se trouve près des îles de Boucherville. Ce n'est pas une épave qu'on plonge. Les archéologues qui l'ont étudiée à l'époque ont enfoui, en fait, l'épave pour s'assurer qu'elle soit préservée. Et à côté de ça, on a certaines petites épaves plus mineures en termes historiques qu'on peut trouver dans le lac Saint-François. Rien ne dit qu'on ne peut pas en découvrir d'autres chaque année, surtout avec les services de cartographie.
Ouais.
On en découvre, que ce soit surtout au niveau de Québec ou en Ontario. Autour de Montréal, pour le moment, pas d'épave majeure, mais sait-on jamais, il y a toujours une petite surprise là-dessus.
Est-ce qu'il y en a dont on pense qu'elle pourrait être dans la région de Montréal et qu'on pourrait découvrir éventuellement? Tu sais, il y a toujours des gens qui disent « Ah, telle épave, tel bateau aurait coulé en telle année, etc. » Est-ce que vous savez s'il y a des épaves historiques qui sont toujours manquantes?
À ma connaissance, non. Mais peut-être que certaines personnes ont une meilleure connaissance de l'histoire. C'est sûr qu'avec la famille Allen, au début de 1900, qui est en haut de la montagne, avec toute l'importance du port de Montréal de façon économique, il se peut fort bien qu'il y ait peut-être pas des épaves au complet, mais en tout cas des restants d'épaves ou des morceaux qui doivent être encore dans le fond, oui.
Madame Lasselin, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne chance pour votre longue épreuve qui devrait durer entre 30 et 40 heures sous l'eau. Ça va se passer au mois de septembre prochain.
Exactement, mi-septembre. Puis si vous voulez nous suivre sur l'Odyssée urbaine aquatique, ça va nous faire plaisir de vous dire ce qui se passe sous l'eau.
Merci, Madame Lasselin. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.
Nathalie Lasselin est cinéaste, elle est plongeuse, conférencière. Elle va se lancer dans une longue, longue plongée. On parle d'une quarantaine d'heures pour faire 70 kilomètres autour de l'île de Montréal.